Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Légende podcast.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Dominique Tapie, qui a été la femme de Bernard Tapie pendant 52 années. Elle va nous raconter tout plein de choses sur leur relation, puisqu'elle a sorti un livre sur ça, sur les échecs de Bernard Tapie, sur les succès nombreux aussi de Bernard Tapie, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme politique, en tant que comédien. Il a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Elle va nous raconter ça. Elle doit plus de 600 millions d'euros à l'État aujourd'hui. En tout cas, c'est notre invité sur Légende. Chaque mercredi, vendredi et dimanche, on vous sort une interview différente. Et il y a quelques temps, on avait reçu Mathias Bacino. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un trader. Il est venu nous expliquer tous les secrets des banques traditionnelles qu'il a d'ailleurs quittées pour rejoindre Trade Republic, qui est donc une banque allemande contrôlée par le marché allemand. Donc, qui est une vraie banque bien safe dans laquelle on peut faire des investissements comme on veut. C'est vraiment très simple. On peut mettre en une fois, on peut mettre tous les mois, on peut essayer d'acheter des actions, les revendre, etc. C'est vraiment génial. Ça permet de pouvoir économiser, d'avoir un petit portefeuille. Et aujourd'hui, on vous propose d'avoir un code, si vous voulez, 10 euros d'ETF. Alors, qu'est-ce que les ETF ? C'est des placements boursiers qui sont indexés sur le CAC 40, par exemple, sur le Nasdaq, etc. Si vous prenez le code qui s'appelle Légende 10, vous aurez 10 euros d'action. Il vous suffit de faire 3 premiers investissements et 300 euros de dépôt pour les débloquer. En tout cas, comme ça, vous aurez accès à ça avec ce code Légende 10. Merci beaucoup à vous tous de regarder de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner en masse sur notre chaîne YouTube Légende. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanches sur YouTube. Et c'est parti avec la femme de Bernard Tapie, Dominique Tapie.
Bonjour, Dominique Tapie, rendez-vous sur Légende.
Merci, bienvenue Dominique.
Merci de me recevoir.
Je suis très content de vous recevoir. Vous avez sorti un livre il y a quelques mois. On m'en a beaucoup parlé. Et dites du bien, c'est aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Bernard, la fureur de vivre. Il y a marqué « Elle seule le connaissait vraiment ». Vous avez écrit avec Catherine Siguré ce livre. On a discuté vraiment 5 minutes avant. Je fais exprès de pas trop parler avant, comme ça on garde un peu de fraîcheur dans l'émission.
Bien sûr.
Le principe, c'est de refaire la vie de nos invités pour comprendre comment ils en sont arrivés là, par quelle étape ils sont passés, comment ça s'est passé, etc. Vous avez été mariée à Bernard Tapie pendant 52 ans.
Oui.
Ça fait longtemps que j'ai pas entendu un couple qui a duré aussi longtemps. Félicitations. On va
Merci.
En parler après.
Une vie bien remplie.
Une vie bien remplie, hein. C'est Bernard, et donc vous étiez ensemble, parce qu'on sait très bien que quelqu'un ne se fait pas tout seul, mais il y a toujours quelqu'un derrière. Vous avez vécu 50 vies avec lui, 50 vies différentes, 50 métiers différents. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'autres exemples comme ça, de gens qui ont été à la fois politiciens, on en reparlera, et de votre souhait qu'ils n'en fassent pas, d'ailleurs, vous en avez parlé plusieurs fois. Il a été acteur, il a fait un morceau de rap, c'est incroyable. Il a racheté un club de foot, c'est racheté Adidas. Exactement, un homme orchestre. Juste pour reprendre votre vie, puis on va revenir sur toutes ces étapes-là. Vous grandissez à Paris, mais dans une famille assez originale, surtout dans les années 50, c'est assez rare. En fait, vos parents ne sont pas mariés. Vous le dites, page 16, vous dites « Ma mère m'avait eu à 20 ans, maîtresse d'un jeune entrepreneur ultra séduisant, qui lui était marié de son côté. »
Oui, sans enfant.
Mais qui n'avait pas d'enfant. Côté paternel, famille plutôt aisée. Côté maternel, commerçant.
Oui, ils avaient un restaurant.
D'accord.
Et c'est comme ça que mon père avait rencontré ma mère.
D'accord. Ah, au resto. Au boulot, 80% des couples se font au travail. Votre compte avec Bernard Tapie se fait en 69. Vous êtes devenu secrétaire d'une société à l'époque. Et vous rencontrez Bernard pour la première fois. Et vous dites, c'est assez marrant dans le livre, page 10, vous dites « Mon type d'homme à l'opposé ».
Oui, parce que il est arrivé échevelé, le blouson de cuir, la cigarette au bec, sortant de sa Ferrari. Enfin, tout ce qui ne m'attirait pas. Et moi, j'étais quand même beaucoup plus classique. Et puis, j'avais un petit ami qui est venu après mon fiancé et qui était vraiment beaucoup plus discret.
Classique.
Classique.
Alors que lui était plus extravagant, c'est ça ?
Complètement. Complètement. Donc, et... j'ai pas eu le coup de foudre quand je l'ai vu.
Ah, c'est vrai ?
Il était beau garçon.
Il était bel homme, Bernard.
Il était bel homme, mais j'aimais pas son genre.
Comment il a fait pour vous séduire ? Parce qu'il partait pas bien, il était pas bien parti. Vous aviez un fiancé, c'était pas ça votre style ?
Eh bien, il a fait comme avec toutes ses affaires. C'est-à-dire que... Il a fait preuve de pugnacité.
Il n'a rien lâché.
Il venait très souvent tourner autour de mon bureau. Et voilà. Et il voulait absolument m'inviter à prendre un verre, à dîner. Et je refusais systématiquement en lui disant « Je crois que vous êtes marié, vous avez des enfants. Moi-même, je suis avec un jeune homme très bien, donc je ne vois pas l'intérêt. » Et puis, bon, voilà, à force.
À l'usure.
À force, oui. Et j'ai découvert un homme beaucoup plus sensible qu'il ne le laissait paraître, beaucoup plus attentionné, très attentionné aux femmes. C'est le genre d'homme à vous ouvrir la portière de la voiture, à vous tenir la porte, ce qui ne se fait plus beaucoup maintenant de nos jours. Mais à l'époque, ça m'avait interpellé, dans le bon sens. Et puis, il avait des vraies valeurs, à peu près les mêmes que les miennes. Très famille.
Vous n'êtes pas trompé puisqu'il est resté 52 ans, vous êtes resté marié 52 ans. Voilà. C'est qu'il avait vraiment ses valeurs de la famille.
Ouais.
Et après, donc, vous aviez le rôle de maîtresse au départ, et lui, il était en couple aussi, hein, c'est ça.
Il était marié même.
Hein. Ça dure combien de temps, cette période-là, où vous avez une réelle double vie, finalement ?
Deux ans environ.
Oui, c'est quand même long. Enfin,
deux ans,
sur 52 ans.
Deux, trois ans, comme ça.
Vous rencontrez la femme de Bernard à l'époque. Pendant que vous étiez la maîtresse, comment ça se passe ? Pour rien laisser paraître ?
Non, mais elle ignore que je suis sa maîtresse. Donc, je la rencontre pas, d'ailleurs. Elle vient parfois au bureau et moi, je suis quelqu'un qui travaille là. Non, non. Au début, il y avait rien, tout était
c'est
bouche cousue.
Il fallait cacher. On voit cette petite période à un moment donné dans la série qu'il y a eu sur Netflix. Est-ce que c'est représentatif de la vérité ? Est-ce que
pas du tout.
Pas du tout ?
Ah, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je reconnais que la série, par elle-même, elle a une dynamique, c'est bien tourné, c'est bien joué. Ils ont pris deux, trois petites anecdotes de notre vie et ensuite, ils ont complètement imaginé...
Fictionné.
Des mises en scène et des situations qui n'ont jamais existé. Jamais. Moi, je n'ai jamais mis un regard dans les affaires de Bernard. Or, si vous voyez la série, on a l'impression que...
Vous gérez les choses.
C'est moi qui dirige tout. Non, ce que je reproche un peu à cette série, d'abord elle s'appelle Bernard Tapie, et pardon, mais c'était notre vie, donc on nous a un peu volé notre histoire. Et ce que je reproche, c'est que je trouve que tout est un peu nivelé par le bas. Alors c'est pour ça que j'enjoins les gens qui aimaient un peu Bernard et à lire mon livre, qui est vraiment un livre dans lequel il n'y a que la vérité. C'est 52 ans, c'est 52 ans que j'ai donné, j'ai parlé avec mes tripes.
Et vous aimeriez qu'il y ait, pour le coup, un film ou une série adaptée, que ce livre soit adapté ?
Oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un film. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un film. Mon fils Laurent a déjà écrit tout le synopsis, puisqu'il connaît par cœur la vie de mon mari, les dates, tout. Il peut tout vous raconter. Et je trouve que ça vaut la peine, parce que Bernard a quand même marqué son époque.
Bah oui,
je m'en rends compte quand je vais faire mes signatures. Les gens viennent vers moi et tout le monde a une histoire à me raconter, avec des tranches de vie. Donc Bernard les a quand même marquées.
Des anecdotes, chacun.
Oui.
Pourquoi vous avez eu envie de parler de ça, justement, de raconter tout ça dans un livre ? C'est par rapport à la série ? Vous vous êtes dit qu'il faut dire la vérité ?
Ah non, ou est-ce que c'était, la série est sortie bien après. Non, La série, je pense qu'ils ont mis 4 ans à la faire. Non, moi, c'est Jean-Louis Borloo, quand j'ai quitté mon domicile...
Monsieur le ministre.
Quand j'ai quitté mon domicile, Jean-Louis Borloo m'a dit « Écoute, t'as plus rien, on m'avait tout pris, j'avais plus où aller habiter, j'avais pas d'argent, j'avais plus rien. » Il m'a logé. Donc déjà, merci Jean-Louis. Et puis, au cours d'une soirée avec sa femme, ils me disent « Mais pourquoi tu n'écrirais pas une histoire sur ta vie ? Tu as eu une vie quand même extraordinaire, avec des hauts, des bas, enfin, une vie peu commune. Donc, pourquoi tu n'écrirais pas une histoire, ton histoire et ta vérité ?» Sur le moment, j'ai dit non, parce que ce n'est pas du tout dans ma personnalité. J'aime bien rester discrète. Et après, ça a fait son chemin. Il faut dire aussi que j'ai eu la chance, ils m'ont présenté Catherine Siguret, avec laquelle je me suis tellement bien entendue. Elle a su percevoir dans mes mots, mes mots, M-A-U-X, et puis les transcrire. Et là, je me suis lancée donc, dans cette aventure. Et j'avais aussi envie de rétablir certaines vérités. Parce que Bernard a été tellement décrié. Je crois que c'était de mon devoir de rétablir certains faits.
Vous lui tenez tête durant 52 ans, c'est-à-dire que vous lui dites non. C'est ça qui fait la différence pour que ça dure un couple.
Oui.
Surtout avec un mec comme ça.
Surtout avec lui. Il fallait absolument qu'il y ait du répondant en face. Ce que n'avait pas sa première femme, malheureusement. Et moi, sous mon air comme ça, très calme, je...
Vous brisez.
Non. Je peux être conciliante, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et je pense que ça, il l'avait bien compris.
Le groupe de Bernard prend son envol, vraiment, vous le dites dans le livre, dans les années 80.
Oui.
C'est dans cette décennie-là, vraiment, que ça part.
Oui.
Il va reprendre l'OM à ce moment-là. Pourquoi il reprend l'OM ? Est-ce que ce n'est pas source d'emmerde d'avoir un club de foot ?
Bon, d'abord, il a toujours aimé le sport. Toujours. Quand il était jeune, il a pratiqué plusieurs disciplines. Il a toujours aimé le sport. Et quand Edmond Charleroux lui propose, au cours d'un dîner officiel où nous étions, à l'ambassade de Russie, elle lui dit, vous savez, vous qui reprenez des entreprises en ce moment et qui les faites fructifier, on a notre pauvre club de l'OM qui est vraiment en 36e dessous et vous ne voudriez pas venir voir un peu ce que vous pourriez faire. Et il m'a dit, allez, on y va, chiche.
En un dîner.
Le lendemain, c'était fait. Le lendemain, il est allé à Marseille. Il a tout de suite vu ce qui clochait. Il y avait une fausse billetterie. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas.
C'était un panier.
Donc, il a remis de l'ordre.
Trou, ouais.
Et puis ensuite, bah voilà, le club est monté jusqu'à ce qu'on gagne la Coupe d'Europe. À jamais les premiers.
Vous aimez le foot, vous ? C'était,
J'ai appris.
Vous n'avez pas le choix ? Vous étiez forcément au milieu de...
Écoutez, oui, si votre mari est fan de foot et qu'il a une équipe, vous êtes obligé, évidemment, de participer un peu. Moi, j'ai réussi à le traîner 2-3 fois à l'opéra pour voir quelques ballets. Je n'ai pas eu autant de succès, mais moi, de mon côté, j'ai fait l'effort.
Il s'occupait
et puis,
de moi,
je me suis prise d'amitié. Après, j'ai appris à connaître tous ces joueurs, chacun leur personnalité, et j'avais des chouchous. Voilà, c'était extraordinaire. Vous savez, quand vous rentriez dans le stade, à l'époque, c'était pas ce stade qui est maintenant magnifique.
Le Vélodrome, ouais.
Mais à l'époque, quand vous rentriez dans ce stade, et qu'il y avait la musique qui partait, et que les joueurs rentraient sur le terrain, il y avait une ferveur populaire, tous ces supporters qui sont extraordinaires et qui continuent en plus à être là pour la mémoire de Bernard, je tiens à le dire. Ça vous prenait ici Et c'était fabuleux. Bernard prenait des Parisiens, qui étaient pourtant PSG, et quand ils avaient été passer une soirée et voir un match de l'OM, ils revenaient, ils étaient tous pour l'OM.
Ah, c'est vrai ?
Ah oui. Je me souviens qu'il emmenait très souvent Le Vaille, le mari d'Anne Sinclair. Il venait très souvent avec ses enfants, comme il avait son avion privé qu'il pilotait. Donc ça lui
il pilotait lui-même son avion. Ah oui. Pour ceux qui ne le savent pas, tout le monde ne le sait pas, c'est vrai.
Ouais.
Il pilotait lui-même son jet.
Ouais.
Pourquoi ?
Alors, je vais vous dire, quand j'ai connu Bernard, il avait une phobie terrible de l'avion. Quand il a été ingénieur conseil et que je l'accompagnais, on se déplaçait ou en voiture ou en train. Il avait très, très peur en avion. En fait, je pense qu'il avait peur parce qu'il ne connaissait pas, il ne maîtrisait pas. Et je lui avais dit, tu sais, j'aimerais beaucoup aller à New York parce que c'est là où mes grands-parents s'étaient mariés. Et j'aimerais qu'on fasse un aller-retour à New York. Et c'est vrai que, pour me faire plaisir, on a pris le Concorde. Et quand nous sommes partis, il est resté avec l'équipe, qu'il louait tous les jours, à la même page, pendant une demi-heure. C'est-à-dire qu'il était tellement tétanisé de peur. Et quand nous sommes revenus, en 747, il a pris conscience que c'était quand même un frein pour toutes ses affaires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'est inscrit, il a pris des cours de pilotage, et il avait, avenue de Friedland, un instructeur qui venait et qui lui faisait réciter ses manuels de pilote. Et comme chaque entreprise qu'il est faite, il a passé son brevet, et il allait au fond, il y avait des dossiers sur les pilotages, les pilotages des différents avions, types d'appareils, et il s'est donné à fond. Et donc voilà pourquoi il pilotait son jet.
Comment il est arrivé à une vie d'homme, c'est comme une table de mixage avec plein de boutons, qu'on monte ou qu'on descend, il arrivait à vous donner du temps, malgré toutes les affaires, à donner du temps pour ses enfants, à donner du temps pour ses amis, comment il
gérait ? Parce que comme je vous l'ai dit, il était très famille. Donc moi, mon rôle, c'était justement de m'occuper de l'éducation des enfants, de faire tourner la maison. J'aurais bien aimé de temps en temps, oui, travailler, mais il n'aurait pas supporté. Il n'aurait pas supporté, parce que dès qu'il rentrait à la maison, c'était son sas. Il se lâchait, il retrouvait les enfants, les chiens, il faisait la cuisine... il regardait son sport, il faisait du sport. Voilà. On avait chacun nos rôles bien définis.
Ouais, c'est ça, chacun devait rester à sa place, quoi. Et il est venu voir des ballets avec vous, il n'a pas aimé l'opéra. Enfin, il n'est pas...
Si, parce que... Il le faisait pour me faire plaisir, mais je voyais bien. Si je l'emmenais voir le lac des Cygnes, pour lui, il me disait, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire, ça n'a pas d'intérêt. Alors je lui répliquais, tu sais, quand tu m'emmènes voir un match de foot, c'est toujours la même chose. Ce sont des joueurs qui courent après un ballon et qui doivent marquer des buts. Alors ce que tu oublies, c'est que moi, quand je t'emmène voir le lac, et puis qu'il y a par exemple Sylvie Guillem, c'est pas le même niveau que quand c'est une compagnie moindre ou... Voilà, alors je vais expliquer la différence. Et toi, quand tu as un joueur comme Moser ou Papin, c'est forcément ton match n'est pas le même. Eh bien, pour un ballet, c'est la même chose.
Vraiment, il fonctionne très bien en termes de business. Et pour parler de notoriété, vous dites, à un moment donné dans le livre, vous dites, il n'hésitait pas à utiliser son image, surtout si c'était sous le feu des projecteurs, son talon d'Achille. Pourquoi son talon d'Achille ? Parce que justement, j'ai l'impression qu'il est très à l'aise à l'image.
Parce que Bernard aimait la lumière. Voilà. Je pense qu'au fond de lui, il avait cette fibre artistique. Il l'a prouvé après. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'était pas doué pour le théâtre ou le cinéma.
Et, ou la musique.
La musique aussi. Et donc, il aimait être le premier. D'ailleurs, il disait toujours cette phrase, aux jeunes, on se souvient toujours du premier, pas du second, du troisième, du premier. Donc il aimait l'excellence et il s'appliquait cette règle à lui-même.
Page 72, vous dites « Deux dangers nous menaçaient intimement à partir du moment où il y a de la notoriété. » Et la popularité venant, vous dites « Les filles et les terroristes. » Les filles parce qu'il était bel homme, oui. Il se faisait draguer, plus avec la notoriété. Vous avez vu une montée de lettres, une montée de...
Bien sûr.
De tentations.
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était un jeu entre nous.
Comment? Dans quel sens?
Dans le sens où les filles étaient vraiment sans pudeur, je veux dire. Et quelque part, Bernard, c'est un homme. Qu'est-ce que c'est un homme? C'est un chasseur. C'est quelqu'un qui veut essayer d'avoir ce qu'il aura du mal à obtenir. Or, toutes ces filles qui lui tournaient autour, ça, il était... Il me disait, non mais attends, elles me font pitié. Donc, c'était pas du tout le bon moyen de... Moi qui le connaissais, c'était pas du tout le bon moyen
de l'avoir,
de faire pour essayer d'avoir quelque chose avec Bernard Tapie. C'est sûr que Bernard Tapie, à l'époque, dans les années 80, jusqu'à 92, oui, il a eu beaucoup d'opportunités, mais il savait aussi que s'il mettait un pas de travers, c'était terminé.
Ah, c'est vrai, vous l'avez dit, ça?
Ah oui, bien sûr. Avec un animal comme ça, vous êtes obligé. Vous savez, Bernard, j'ai toujours dit, c'était comme si j'avais un pur sang à la maison. Donc, il faut savoir tenir les rênes.
Et vous avez réussi?
Bien sûr.
Ou est-ce que vous avez... Oui, c'était réussi. Des menaces en l'air?
Ah non, ce n'est pas une menace en l'air. Vous savez, j'ai des origines méditerranéennes. Ce n'est pas une menace en l'air. Il a déjà eu des actes.
Ah, vous l'avez montré déjà qu'il ne
oui.
fallait pas rigoler?
Oui.
Vous l'avez déjà vu ses affaires dehors par la fenêtre?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Ah oui, vous n'étiez pas facile. Enfin, vous n'étiez pas facile. Il fallait lui tenir tête, c'est ce que vous disiez avant, quoi. Mm. C'est le plus dur, quoi. Et c'est ça qui a fait que ça a tenu aussi, j'imagine, 52 ans, comme vous disiez.
Évidemment.
Et donc, pour parler, vous dites les filles et les terroristes, c'était quoi? C'était des gens qui pouvaient vouloir du mal, les mafias, les trucs avec les clubs?
Non, parce
avec...
qu'à l'époque, nous étions Villa Saïd, et il y avait ce qu'on appelait les Brigades Rouges, la bande à Bader, enfin, il y avait... Et comme il était médiatisé, l'Élysée lui avait dit, écoutez, il faut vous mettre une protection, parce que au cours d'une perquisition, ils avaient retrouvé dans cette fameuse bande à Bader, ils avaient des cibles et il y avait son nom. Et donc, ils nous ont octroyé un garde du corps. Et Bernard a dit, moi, je n'ai pas besoin de garde du corps. Mais mon fils qui va au lycée à Janson, oui, on ne sait jamais. Vous savez, il y avait eu déjà toutes ces histoires, l'enlèvement, il y avait eu Empain, il y avait... Bon.
La fille de Serge Gainsbourg aussi, Charlotte Gainsbourg, ils ont arrêté juste avant. C'est Olivier Marchal, le réalisateur, qui nous en a parlé quelques temps. Il était sur cette affaire-là. Et lui, il a été autorisé à porter une arme.
Bernard, oui, on lui a donné une arme. Bah, parce qu'il était ancien officier de réserve. Donc, oui.
Donc, il était armé, mais pas de garde du corps. Il se faisait
oui,
tout seul.
Il était armé, il n'avait pas son arme sur lui. Hein. Je vais vous dire, cette arme, dès que je l'ai vue, je l'ai mis dans un coffre à la maison et personne n'y a touché.
Ah, c'est vrai?
Ah oui. Oui. D'ailleurs, plus tard, je raconte que j'ai bien fait quand il a eu tous ces problèmes.
On va y arriver. Et page 73, j'essaie d'avoir la continuité du livre, alors on va revenir sur ça, mais vous dites, Bernard recevait Avenue de Friedland des photos de filles nues, vous racontez plein d'histoires, etc. Vous l'avez jamais, enfin, vous ne lui aurez pas pardonné si jamais il avait fait...
Certainement pas, il le savait.
J'insiste là-dessus parce que y a quand même, vous écrivez des choses là-dessus. En 85, il donne une conférence, comme des TEDx aujourd'hui, des conférences avec un public, etc., où il l'explique, une sorte de masterclass, ça s'appelle aujourd'hui, voilà, on vient s'exprimer sur un sujet, avec des jeunes entrepreneurs. Et certains dans le public, il y a des gens à côté de lui aussi, mais des jeunes à l'époque, page 78, vous dites, il y avait Jacques-Antoine Grandjean, qui a aujourd'hui fait Vente Privée, Marc Simoncini, fondateur de Mythic, Xavier Niel, fondateur de Free. Mm. Il avait les clés du succès, vraiment, Bernard.
Oui.
Vous dites, à chaque fois qu'il reprenait une boîte, il fonctionnait, il avait assez peu d'échecs, il en a eu comme tous les entrepreneurs du monde, mais assez peu. C'était quoi sa recette? Pourquoi ça fonctionnait avec lui?
Il devait avoir cette capacité ou ce nez de trouver ce qui clochait dans la boîte. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Il était... Et d'abord, il avait une intelligence exceptionnelle, et puis il était fait pour ça. Il était fait pour ça. Il savait très bien ce qu'il fallait faire.
Il n'était pas contre être dans une zone grise aussi. Dans les médias, il faisait passer parfois pour un peu mafieux, etc. Machin. Mais c'est surtout qu'il aimait bien être lui dans la zone blanche, la zone noire. Il aimait bien être dans le gris, en gros, être à la limite sur plein de choses.
Oui, il y a des fois où il a été borderline, bien sûr.
Parce qu'il n'y a pas le choix, parfois aussi, pour y arriver, je pense.
Oui.
Sur certaines sociétés, ça fonctionne. Oui. Si on reste trop dans le clou, on n'y arrivera pas. Donc, il rachète un club de foot, un voilier de 72 mètres de long aussi, par rapport à ses achats, c'est incroyable. Il achète beaucoup, vous dites, de pièces uniques d'antiquaires. Avec Bernard, rien, jamais, ne pouvait être normal. Il aimait bien afficher aussi la réussite. C'était pas en fait, c'est pas très français,
je
aujourd'hui.
Sais. Ouais. Ouais.
Mais c'est vivons pas
heureux,
grave,
vivons cachés, ça, c'était pas du tout sa maxime. Hein. Pas du tout. Non, parce que pour lui, venant donc d'où il venait, c'était une réussite. Il affichait sa réussite. Rien ne le prédisposait à arriver à ce niveau.
Parce qu'il s'est fait tout seul.
Mais complètement. Complètement.
Est-ce que vous l'avez déjà dit, là, Bernard Tabuse, sur un achat d'un truc un peu inutile ou rigolo, quoi? Est-ce qu'il a déjà acheté un truc, il est arrivé à la maison, vous lui avez dit, non, là, c'est n'importe quoi? Est-ce qu'il avait, comme tout le monde, hein,
oui,
on achète
oui,
des conneries?
Oui. Oui, bien sûr, je lui ai dit, oui. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais Fossea, c'est autre chose. Hein. Fossea, c'est parti. On était avec. On a fait une petite mini croisière sur un petit swan de 22 mètres avec trois couples d'amis. Et Bernard se disait oh, c'est sympa, mais alors on est allés trois, on entend ce qui se passe dans la cabine à côté. Je ne peux pas dormir dans le même lit que ma femme, on est en lit superposé. Enfin bon, ça lui déplaisait. Et en boutade, l'un de ses amis, qui s'appelait Jacques Fayard, qui était le président de Thomson, lui dit, bah, écoute, si ça ne te convient pas, pourquoi tu ne vas pas racheter le club Méditerranée qui est en train de pourrir au port de Papété? C'était le bateau d'Alain Colas. Et Bernard, comme ça aussi, un coup de tête, a dit bah, on va aller le voir ce bateau. Et nous sommes partis à Tahiti avec il avait retrouvé l'architecte naval qui avait construit le Club Med avec une énorme coque en acier qui était née dans la ville de Toulon. Et nous sommes partis à Papété avec donc Michel et Suzanne Bigouin. Et là, on a découvert ce bateau qui était... Il faisait de la peine, il était en ruine. Mmh. Et vous voyez, c'est parti de là. C'est pas il a acheté le Fossea. Le Fossea n'existe pas. Il a acheté ce bateau, comme le reste. Il l'a fait revenir. Ce bateau est allé dans les chantiers navals de Marseille, d'où son nom, Fossea. Et il en a fait un des plus beaux voiliers au monde et un des plus rapides. Voilà, c'était pas un bateau...
Mais qu'il a juste fait construire.
Un ostentatoire, c'était pas un traîne couillon, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas ça, pour manger des petits fours. Les membres d'équipage étaient tous des marins de la marine marchande, des voileux, tout le monde se tutoyait, et puis, voilà, on tirait des bords. Et il est devenu Fossea. Mais c'était pareil. Focea, il l'a pris, c'était un tas de rouille. Et il en a fait un des plus beaux bateaux. C'était encore un challenge.
Fait en France.
Et tout était français. Et il avait un pavillon français. Et c'est pour ça que Bernard avait...
On paye pas le même prix quand on a un pavillon. Enfin, c'est des taxes.
Exactement. Et donc, comme il avait un pavillon français, Bernard a été condamné au cours des nombreux procès qu'on lui a faits. Il a été condamné à une fraude fiscale virtuelle. Donc, vous voyez que c'est quand même malheureux. Il aurait mieux valu qu'il ait un pavillon panaméen, comme la plupart de nos capitaines d'industrie.
Est-ce que vous comprenez tous ces choix de carrière? Il y a des fois où vous n'étiez pas d'accord avec lui. Vous lui dites là, par exemple, n'y va pas.
Non, je ne lui ai jamais dit que je n'étais pas d'accord, à part pour la politique. C'est la seule fois où là, je sentais que...
C'était pas une bonne idée.
Non. C'était dangereux. C'était un monde de requins. Je le savais.
Plus que les affaires.
Mais comment?
Plus que le foot.
Mais bien sûr. En politique, c'est...
C'est les échecs.
C'est épouvantable.
Ils jouent aux échecs.
Je n'aime pas du tout les politiques. D'ailleurs, vous voyez, quand on voit où on en est, hein? C'est pas... No comment. Si les politiques avaient un peu plus fait attention et fait leur travail, on n'en serait pas là.
À l'époque, lui, c'était Mitterrand.
Oui.
Avec qui il s'entendait plutôt bien, qui lui propose de devenir ministre, ministre de la ville. Mmh. Ça a été une grande fierté pour lui. Vous le racontez, ça vous dites, c'est quelque chose, vraiment, il était très patriote. J'ai découvert ça, vraiment en lisant le livre.
Ah oui,
Je ne sais pas qu'il était patriote à ce point-là. Et par contre, il y avait quelque chose qu'il était obligé de faire. Il n'avait pas le droit d'être à la fois capitaine d'industrie. Il a dû tout vendre. On reviendra après sur l'histoire.
C'était la condition. Pour qu'il rentre au gouvernement, il fallait qu'il se défasse de toutes ces sociétés.
Il était fier de ça, d'être ministre?
Ah, et comment? Vous savez, je raconte l'anecdote dans le livre. Il s'était battu comme un lion pour avoir Adidas.
Pour racheter Adidas?
Des mois. Et je rentre dans les détails, parce que c'était comme un thriller. Il fallait comprendre. Plein de gens avaient essayé avant lui. Hein. Donc c'était un vrai combat. Il l'avait remporté. Il avait recommencé à remettre sur pied des synthèses pour que ça marche, puisqu'Adidas était en difficulté.
Il le rachète à deux sœurs, c'est ça?
Aux sœurs d'Asler, oui. Et quand il me dit je vais vendre Adidas, je m'en souviens très bien, on était dans sa salle de bain. Je lui dis, Bernard, tu te souviens que tu as passé des mois? Il n'en dormait plus, il passait des heures au téléphone. Tu peux pas te séparer d'Adidas. Et là, il m'a répondu, qu'est-ce que c'est Adidas? À côté d'être ministre de la France, être au service de mon pays. Adidas, je serai toujours qu'un marchand de pompes. Vous imaginez?
Il aurait été un bon président?
Je ne sais pas. Je ne le voyais pas du tout président. Maintenant, oui, parce que maintenant, la fonction a beaucoup baissé. Mais à l'époque, moi qui suis gaulliste...
Est-ce que finalement, l'État, aujourd'hui, ce n'est pas comme une grande société et il ne faudrait pas un chef d'entreprise? Un peu comme il était, un très bon chef d'entreprise. Est-ce qu'il ne faudrait pas des chefs d'entreprise à la tête de l'État parce que c'est des gestions de budget, finalement?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans une de ses interviews. On ne peut pas être un homme multi...
On peut être bon partout.
Avoir une intelligence multiple. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir bien s'entourer, évidemment. Alors, un chef d'État, c'est ça. Il doit bien savoir choisir ses ministres.
Un chef d'entreprise aussi.
Mais c'est
ça. Bien choisir ses managers, des gens qui ont des qualités qu'on n'a pas.
Bien sûr.
Pour combler. Finalement, vos doutes envers la politique se sont avérés vrais.
Oui.
C'était, vous le dites dans le livre, hein, c'était le début de la fin. Le début des problèmes. Je ne sais plus comment vous le citez exactement. J'ai plus tout en tête, mais vous citez ça. Vous dites ça s'est avéré vrai, etc. La politique, c'est dangereux ?
Très. Très dangereux, surtout pour quelqu'un qui ne fait pas partie du sérail.
Qu'est-ce que vous appelez le sérail ?
Ce qui était son cas.
C'est quoi le sérail ? C'est des gens qui ont fait l'ENA ?
Ben voilà, c'est ça.
Qui ont fait le cursus
classique. C'est ça, et qui se cooptent tous ensemble, même ceux de droite et de gauche. Hein. S'ils sortent de la même grande école, après, ils prennent des directions. Mais, et lui, c'était un électron libre. Et en plus, quelqu'un qui avait un franc-parler, sans limite, et qui dérangeait. Qui dérangeait parce qu'il avait des succès. Il avait du succès. Il avait quand même fait 12% aux européennes. Donc évidemment, ça a commencé à déplaire beaucoup.
Aux certains ministres, peut-être au président aussi.
Ah non.
Non.
Ah, pas du tout. Je peux vous dire que le président Mitterrand l'a toujours soutenu. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il disparaisse, Mitterrand, même malade, appelait Bernard et lui disait « Tenez bon ». Donc ils avaient, entre les deux, il y avait une... comme une admiration, un respect.
Il était, ouais, il était admiratif de Mitterrand quand il le voyait.
Il le trouvait d'une très grande intelligence.
Il est venu chez vous déjà, à l'époque, le président ?
Non.
Non.
Mais nous, nous sommes allés à l'Élysée.
Pour le voir ? Ouais. Et alors, c'était impressionnant ?
Oui. Il était très impressionnant, oui.
Il paraît qu'il...
C'était un des, c'est un des... quelqu'un de très calme. Mais... tellement brillant sur plein de sujets.
C'était dangereux physiquement d'être ministre aussi ? Il y avait des menaces comme aujourd'hui on peut avoir
Quand il était ministre, c'était, ce qui était drôle, c'est qu'il avait donc un chauffeur et un garde du corps, comme tous les ministres. Et il ne supportait pas d'être conduit, donc il mettait le chauffeur à côté, le garde du corps derrière, et il prenait le volant. Et, voilà.
Et c'est lui qui conduisait ?
Ah oui, complètement. Je peux vous dire que les deux s'accrochaient.
Ils ne respectaient pas trop les... Ils conduisaient rapidement ?
Ils conduisaient très rapidement.
En 87, juste avant de parler des rumeurs un peu drôles, vous organisez votre mariage justement sur le bateau, sur le Phocéa, le 23 mai 87. Vous dites que c'est le seul événement fastueux qui a eu lieu sur le Phocéa. Pardon. Pourquoi vous décidez de vous marier ?
J'ai pas décidé de me marier. Moi, il voulait tout le temps, il me demandait toujours de se marier. Moi, j'avais pas envie. Parce que, je sais pas, peut-être que c'était inconsciemment une manière de lui résister encore un peu. Donc, on s'est mariés au bout de 17 ans. Et ça nous gênait aussi parce que mon fils, Laurent, me disait « Maman, pourquoi... quand tu fais un chèque, tu ne signes pas de la même signature que papa. Tu n'as pas le même nom. » Donc tout ça, bon, j'ai accepté. J'ai accepté de me marier et il m'a fait cette surprise d'organiser le mariage sur Phocéa au large de Corfou.
J'ai pris des rumeurs qu'il y avait, c'est des trucs un peu rigolos hein, qu'il y a sur Internet ou étonnants, parce qu'il y a, c'est un garçon, un homme sur qui il y a eu plein de rumeurs. Vous allez me dire si, d'après vous, c'est vrai ou faux, ou si vous ne savez pas, il y a peut-être des choses, voilà. Le Vélodrome aurait pu être rebaptisé Tapis Stadium.
J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé.
Ça aurait été beau ?
Oui.
Et je pense qu'il y a plein de supporters qui auraient été d'accord.
Bien sûr, mais vous savez que là, mon fils a organisé comme une collecte, ou un site... pour que les supporters et tous les gens qui ont aimé le football participent à l'inauguration d'une statue pour la commémoration de la Coupe d'Europe.
Une cagnotte, vous voulez dire ?
Il y a une cagnotte en ligne, voilà.
Et... qui est en ligne encore aujourd'hui ?
Oui, bien sûr.
Je mettrai le lien en cliquable sous la vidéo, si on arrive à le retrouver comme ça, si vous voulez participer pour mettre une... Ouais. C'est rigolo, ça, une
statue. C'est mon fils qui a fait ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a fêté les 30 ans de la Coupe d'Europe, là, il y a quelques mois, au mois de mai. Eh bien, il n'y a pas un virage, il n'y a rien au nom de Bernard Tapie. C'est quand même un peu scandaleux. Mmh. Et ça, les supporters en sont conscients.
Ils seraient d'accord. Ouais.
Mais évidemment. Donc, quand il y aura cette statue, quand on aura atteint la somme, il sera sur l'esplanade, en haut des marches du Vélodrome.
Et ça, il y a l'accord à partir du moment où il y a le...
Il y a l'accord de la mairie. Mais on a arraché ça au cours de la commémoration, là, il y a quelques mois. C'est quand même incroyable.
C'est fou. Je vous mets le lien, si vous voulez participer, pour qu'il y ait une belle statue de Bernard Tapie à côté
du... Pas une statue de Bernard Tapie, une statue de ses joueurs, de lui, de ses joueurs, quand ils ont la coupe aux grandes oreilles...
Paris des champions.
Dans les mains.
Il aurait interdit avant qu'on fasse une série sur lui.
Il n'avait pas envie qu'on fasse quoi que ce soit, puisque quand le fils Gala est venu lui demander de faire un film, il lui avait dit non, une première fois. La deuxième fois, avec Jacques, son père, qui est un ami très cher de Bernard, donc ils sont revenus. Et là, Bernard a dit, bon, bah, écoute, si tu veux, mais tu fais tout ça avec l'accord et sous le contrôle de mon fils Laurent. Parce qu'il savait que Laurent détenait la vérité. Et puis, ça ne s'est pas fait.
J'ai entendu une histoire à l'époque. J'ai commencé sur Skyrock, la radio rap. J'ai entendu une histoire lors d'une émission avec Bernard Tapie, il y a très longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, où le comédien Michael Youn lui aurait fait une blague un peu poussée à l'antenne, je ne sais plus ce que c'est exactement de tête, mais qui se serait un peu battu avec Michael Youn, ou mis une claque, ou...
Ah.
Ou un coup de poing, je ne sais pas trop, mais j'avais entendu cette anecdote, je ne sais plus si c'est là-bas que je l'ai entendu, ou ça, je ne me rappelle plus, mais j'ai toujours entendu cette histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez entendu parler?
Oui, j'ai entendu parler de ça. Il lui a mis une petite, comme ça, chicno de là, dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne m'étonne pas de Bernard. Ça ne m'étonne pas de Bernard. Vous savez, une fois, il a sorti Pro d'un magasin.
Hein. Et Pro?
Pascal Pro.
Ah bon?
Oui.
D'un magasin?
Oui. Bernard était dans un magasin près des Champs-Élysées en train d'acheter des vêtements, j'en sais rien. Et il était foudrage contre l'équipe et contre Pro, qui était à l'époque journaliste sportif.
À l'équipe, oui.
Et qui critiquait l'OM. L'OM, c'était son enfant chéri. Il ne fallait pas toucher à l'OM, il ne fallait pas toucher aux joueurs de l'OM.
C'était le patron.
Et donc, Pro rentre dans la boutique et lui dit « Ah, Bernard, toi, après tout ce que je dis, tu fous le camp. » Et il l'a attrapé, il l'a mis dehors. Ah ouais. Mais voyez, il est intelligent, Pro, puisque il a complètement oublié l'anecdote. Et je trouve.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Il a été formidable quand Bernard est parti. Et ils avaient très bons rapports après.
Ah oui, c'était juste sur le moment, quoi.
Ouais, il était très impulsif, Bernard.
En fait, il disait directement en face ce qui n'allait pas.
Ah, voilà.
Et c'est pas forcément quelqu'un de rancunier.
D'où vous voyez, vous ne pouvez pas faire de la politique.
C'est failli avoir une télé-réalité sur votre famille. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est n'importe quoi?
Oui. Alors, Claude Lelouch lui avait dit, écoute, si tu veux, il était en avance lui aussi, il y a à peu près 20 ans. Il lui a dit, tu sais, j'aimerais que tu me laisses te filmer dans ta vie de tous les jours, tu t'occupes pas de nous, on vient, et puis et Bernard n'a pas voulu. Mais c'était une idée de Claude.
Claude Lelouch. Il recevait des cadeaux de beaucoup de politiques français.
Des cadeaux.
Ouais, il recevait plein de petits cadeaux. Non, je suppose, j'ai lu tout ce qu'il y avait sur Internet. C'est quelqu'un qui a reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux parce que il a dû rendre des services, être sympa à des moments. Il a reçu plein de jolis cadeaux.
Ah non.
Non.
Des politiques en plus. Ah non, ça, j'ai jamais entendu parler de ça.
Il aurait préféré que François Civil incarne son rôle dans la série justement Netflix sur votre vie plutôt que Laurent Lafitte?
Non, c'est moi. C'est moi qui...
Ça, c'est vous, vous auriez préféré?
Lui, il n'était plus là quand la série est sortie.
Non, mais que si quelqu'un jouait, qu'il aimait bien François Civil.
Non, c'est moi. C'est moi qui ai dit que Laurent Lafitte, il joue très bien, mais je trouve que... D'abord, c'est très difficile d'avoir la personnalité écrasante qu'avait Bernard. S'il y a un film qui doit être fait, je pense que ce sera très bien avec ce François Civil que j'ai découvert dans Les Trois Mousquetaires.
Ah, c'est vrai? Ok,
voilà,
ok.
Je ne savais pas.
Et vous aimez bien?
Et j'ai tout de suite dit, voilà, ce type de garçon pourrait très bien incarner Bernard à l'écran.
Il paraît que vous avez... je ne sais pas si c'est là. Vous l'avez déjà ressorti, mais il y a une petite anecdote qu'on n'avait pas dit. Lors d'un tournage d'un film, donc, il aurait eu une relation avec Ophélie Winter. Vous auriez planté un couteau
oui.
dans une photo d'Ophélie Winter.
Non, pas dans une photo d'Ophélie Winter. Dans un article de journal. Un journal à sensation, style... à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, France Dimanche, Ici Paris,
d'accord, oui,
un journal de ragots. Et oui. Quand il est rentré, puisqu'il tournait la semaine à Paris, moi à l'époque, j'étais, pendant ces 2 années, on était installé à Marseille. Et en effet, il y avait eu des articles où on les montrait s'échangeant un baiser, mais c'était pour les besoins du film. Alors, il paraît que... Et alors, quand il est arrivé le soir, en week-end, à la maison, eh bien, je n'étais pas là. Et j'avais fermé la porte de la chambre, j'avais découpé l'article, et puis j'avais un grand couteau de cuisine comme ça, pour lui dire attention. Voilà, bon. On s'est expliqué. Il m'a dit qu'en effet, ça ne lui aurait pas déplu, à la petite Ophélie. Mais ça s'est arrêté là.
C'était des bonnes menaces au couteau pour bien montrer. C'est ce que vous disiez. Fallait... Parce que vous dites toujours, j'avais entendu dans une interview, personnalité écrasante, mais vous écrasez pas, vous.
Non. Non.
C'était hors de question.
Oui.
Après votre mariage...
Je le connaissais trop.
Vous connaissez trop?
Je le connaissais trop.
Pour continuer votre parcours, en 88, vous emménagez dans un hôtel particulier, cette fois-ci dans les beaux quartiers. Vous dites que la gouvernance de la maison était un emploi à temps plein. Vous aviez des employés de maison, etc. Vous arrivez et Bernard arrive à ne pas être déconnecté, parce que c'est très difficile quand après ça fonctionne et qu'on a de l'argent, de continuer à comprendre les problèmes, surtout après qu'on devient ministre, pour bien comprendre les enjeux, les besoins des gens. Vous arriviez à ne pas être trop déconnecté?
Moi?
Oui.
Moi, je n'ai jamais été déconnectée. Hein. Moi, je suis toujours restée... mais lui aussi, d'ailleurs, est toujours resté dans la vraie vie. Vous savez, Bernard n'a jamais oublié d'où il venait. Hein. Il est resté toujours très proche des gens. Je vous dis que sur Focéa, l'équipage, c'était comme des copains.
Après la politique... en 90, donc Mitterrand va le nommer ministre de la ville, on en parlait tout à l'heure, mais pour revenir sur le parcours, pour continuer, il revend tous ses business, etc. Le Crédit Lyonnais, il va se tourner en fait vers le Crédit Lyonnais pour se charger de la vente à l'époque. C'est justement là, vous disiez, c'est que les problèmes qui vous poursuivent toujours aujourd'hui, ça commence en fait finalement il y a des années. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, en gros, Bernard accuse le Crédit Lyonnais d'avoir menti sur le prix fixé, d'avoir fait un montage financier pour eux-mêmes racheter Adidas, etc. J'essaie de le faire très simplement pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire. Hein. Le but, c'est de parler à tout le monde et d'essayer d'être assez clair. Le Crédit Lyonnais met en faillite le groupe.
Non, Bernard se leur donne ses sociétés pour les vendre, et dont Adidas. Et alors que toutes les sociétés étaient viables... Hein. Et quand ils ont vendu Adidas, ils se sont donné un prix, on va dire 2 milliards de francs. Donc Bernard leur cède Adidas, non pas au Crédit Lyonnais, pour revendre Adidas. Et là, on apprend que le Crédit Lyonnais s'est acheté Adidas par des sociétés offshore. Vous imaginez une banque de France qui achète Adidas via des sociétés offshore et qui la revend 48 heures après, le double de ce qu'on a donné à mon mari, 4 milliards de francs. Où est le scandale ? Et après, on raconte que c'est mon mari qui est un escroc. C'est pour ça aussi que ce livre... Et d'ailleurs, lui avait écrit un livre. Un scandale d'État, oui, pas celui que vous croyez. Eh bien, tout ça, c'est resté en l'état. Après, il y a eu les histoires avec l'arbitrage. Pour lequel il avait touché 404 millions d'euros. On l'avait spolié de 2 milliards. Hein. 404 millions d'euros. Le CDR en a gardé 100. Donc, il avait eu 304. Et entre le moment où l'arbitrage a été annulé et sa mort, trois actifs ont été vendus. Et ces trois actifs ont remboursé complètement les 304, même plus, puisque les actifs ont rapporté 309 millions d'euros à l'État. Voilà. Et ce qu'on me demande aujourd'hui, ce sont des intérêts. Donc je veux bien que les gens comprennent. Mon mari n'a jamais eu un franc de l'État. Ce qu'on me réclame, ce sont des intérêts. Ce qu'il a touché de l'État a été rendu à l'État. Et il reste toujours l'histoire du Crédit Lyonnais, mais malheureusement, avec les années, c'est jugé, on ne peut pas entériner. Mais c'est un vrai scandale. Il a été floué.
Tous ces problèmes, finalement, pour avoir été ministre.
Oui.
S'il ne l'avait pas été, il aurait gardé ses boîtes.
Ben voilà, bien sûr. Bien sûr.
Est-ce que le jeu en valait la chandelle, finalement ? Non.
Non. Ah, non, mais bon.
Après, écoutez, il avait vécu son rêve aussi d'être ministre.
Oui, mais enfin, il n'est pas resté ministre très longtemps, parce qu'il y a eu des affaires après. Enfin, je veux dire, après, on a eu beau jeu de le stigmatiser, d'en faire un peu un bouc émissaire. C'est facile quand la démocratie, tout est mis un peu en péril, de trouver quelqu'un. Ça me rend hystérique. Je ne supporte pas.
Quand vous avez eu les huissiers qui sont venus après, que le groupe en faillite, etc.
Ah oui.
Vous dites, j'ai rangé l'arme dans le coffre dont j'étais seul à connaître la combinaison. On en avait rapidement parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Vous avez peur qu'il fasse du mal à des gens ou à lui ?
Mais non. Jamais il aurait fait de mal à des gens. Non, j'avais peur que lui... il avait été très marqué par le suicide de Pierre Bérégovoy, qui était un homme... formidable, les deux venant tous les deux dans ce gouvernement Mitterrand. Ils venaient tous les deux d'un milieu ouvrier. Et ils s'estimaient beaucoup. Et quand Bérégovoy s'est suicidé, Bernard avait gardé des petits mots que Pierre lui envoyait pendant le Conseil des ministres. Il le voyait qui était acculé. Et moi, j'ai repensé et je me suis dit, Bernard, en ce moment, est très mal. Je le voyais bien parce qu'il a été quand même tellement vilipendé, traîné dans la boue, que j'ai eu peur. Et je me suis dit, il faut absolument que le pistolet reste dans le coffre. Et à un moment, il m'a demandé.
Où il était ?
Oui. Et je lui ai dit, je ne sais pas. Mais donc, il a eu un moment, certainement... Vous savez, quand on a envie de partir, c'est parfois quelques secondes, puis après, on reprend ses esprits.
Il paraît que c'est ça.
Mais je pense que...
C'est très rapide.
Il a pensé en finir, à un moment.
En 93, après, il est accusé d'avoir truqué un match lors de la Coupe de France. Moi, je ne suis pas un gros pro de football, mais j'ai essayé je connais un petit peu l'histoire de très loin... où il aurait tenté d'acheter des joueurs de l'équipe adverse pour qu'ils lèvent le pied pendant le match, en gros. En 1994, il est mis en examen pour faux usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux avec les comptes de l'OM. Il est accusé d'avoir détourné 101 millions de francs à l'époque. Il y a tout plein d'affaires judiciaires, donc vous connaissez vraiment des hauts, des bas. Il devient acteur en même temps, en 1994. On dirait qu'il y a plusieurs vies, c'est assez bizarre hein, pour moi qui prépare une émission. Je reviens sur un métier d'acteur, ça repart, c'est
non, bah, il y a eu toutes ces affaires, bien sûr, puisque c'est un peu comme... Vous savez, comme le château de cartes, quand vous donnez un petit coup, après, tout s'effondre. Et oui, il a eu tous ces problèmes, donc il a fait de la prison, et quand il sort de prison, il n'a plus le droit d'avoir d'affaires, il n'a plus le droit de... Il n'a aucun droit. Et Lelouch lui dit, bah, tu sais quoi, tu as le droit de tourner des films. Donc, je vais te faire tourner dans mon prochain film. C'est comme ça qu'il a tourné avec Ophélie Winter. et j'avoue qu'il était très bon dans ce rôle. Et puis ensuite, il a fait du théâtre. Là, il a été aussi excellent dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Nicholson avait fait parvenir des félicitations en disant qu'il avait vu ce fameux Bernard Tapie sur scène et qu'il lui tirait son chapeau. Et après, il a animé des émissions de télévision.
Sur TF1
Oui.
Sur l'entrepreneuriat.
Après, il avait des émissions. Il avait fait Commissaire Valence, des séries.
Oui.
Et puis, il y avait des petites émissions où il recevait des personnalités en tête-à-tête. Mais il était comme un poisson dans l'eau, là.
Touché à tout.
Oui.
Il se sentait bien partout, en fait.
Oui, je crois.
Il se mettait à l'aise rapidement, parce que effectivement, moi, je me rappelle de lui qui jouait, il jouait très bien.
Il joue très, très bien.
C'était pas quelqu'un qui jouait l'acteur, genre, il jouait non. Comme les autres, quoi.
Non, mais il avait un tel charisme qu'il s'appropriait le rôle.
En 95, donc c'est là où il prendra en appel 8 mois de prison ferme. Comment vous apprenez la nouvelle ? Comment on apprend qu'il prend ? C'est l'avocat qui appelle ? Vous étiez au procès ?
Mais non, on est au procès. On est au procès.
Vous dites, notre fille n'a jamais connu cette période d'ascension. À ses 3 ans, son père était ministre au sommet. À ses 6 ans, on le menottait au réveil. C'est un très bon exemple des dents de scie que vous avez vécues. Oui. Ça devait être une vie assez géniale et en même temps assez fatigante, en même temps, à certains moments.
Ah, c'est sûr, je n'ai pas eu une vie commune. Et pas eu de vie plan-plan.
Mais ça vous a plu ?
Il y a eu des moments difficiles quand même. Quand vous voyez votre mari partir pour la prison, qu'on vous a pris tous vos biens, que vous êtes spolié, vilipendé, honni par la société bien-pensante. Non, il y a eu des moments très très durs. D'ailleurs, avant qu'il parte en prison, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, je te demande pardon pour tout ce que je vous fais subir, à vous. Moi, les enfants, ses parents, toute cette opprobre. C'était
parce que ça éclabousse la famille.
Oui.
Et comme vous dites, château de cartes, après, en 96, condamné à 2 ans de sursis pour le tribunal pour abus de biens sociaux... une société là, dont il a été PDG, etc. Et puis après, 97, fraude fiscale, 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, ça s'enchaîne. Et en 98, il fait un morceau de rap. C'est fou. Avec Doc Gynéco, pour ceux qui ne voient pas le morceau, il a fait un titre, allez voir sur Internet, c'est assez dingue.
C'est beau la vie.
C'est marrant, hein, c'est beau la vie. Et après, dans le rap, il y a plein de rappeurs qui le reprennent. Je ne sais pas si lui, ça le faisait marrer. Est-ce qu'il vous racontait ça ? Tiens, il y a tel rappeur qui m'a cité, non, machin, non, c'est vrai ?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que Bernard était un peu comme moi. On n'est pas... on n'a pas accès aux réseaux sociaux. Enfin, moi, je sais que je ne regarde jamais. Et lui, à l'époque, non. Bon, il avait fait avec Doc Gynéco, mais enfin... C'était cool, hein.
Doc Gynéco, c'est pas rapide, hein. C'est...
Ouais.
Il avait des bonnes punchlines aussi en interview, il était connu pour ça. Des grandes phrases qui résonnaient. Je vais vous en citer, vous allez me dire si c'est lui ou pas lui, de tête. Pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste ? Est-ce que c'est lui qui a dit ça ou pas ?
Non. Enfin, ça me... Non, je crois
si,
pas.
Si, c'est lui. C'est très drôle.
C'est lui qui a dit ça.
Ah, ouais. Pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste ? J'ai menti, mais c'était de bonne foi. Est-ce que c'est lui qui a dit ça ou pas ?
Non.
C'est lui aussi. Je pourrais vous donner les références. C'est pas marqué sur l'affiche, là, mais on a pris à chaque fois de chaque
vous
interview.
Vous êtes sûr que c'est pas un autre, là, qui a sorti « J'ai menti de bonne foi » ?
Ah, je crois pas, non. Non, non. « Je ne joue pas au casino. Moi, je parie que sur moi-même. »
Ça, c'est possible.
Ça, c'est pas lui.
Et pourtant, il a joué au casino.
Il jouait au casino beaucoup ?
Ah oui, je le raconte. Il a eu aussi sa période joueur.
Taisez-vous, vous commencez sérieusement à briser les baloches.
Ah oui, ça peut être que lui.
C'était pas lui, celle-là, mais c'est possible. On a essayé de prendre des phrases.
Oui, là, vers des phrases comme ça...
J'aime plus le boulot qu'une fille dans mon plumard.
Possible.
C'est lui, ouais. Ma seule ambition, c'est d'être Bernard Tapie. C'est lui. S'il y a une chose que je sais faire, c'est faire du blé.
Ça, c'est possible.
C'est lui aussi.
Oui, parce que pour lui, faire de l'argent, c'était synonyme de réussir. Réussite.
En 2021, on va reparler de sa maladie, où il apprend en 2017, c'est ça, de tête, qu'il est malade.
Qu'il a un cancer, oui.
Qu'il a un cancer. Il se bat, il explique dans des interviews, il dit c'est un combat avec l'énergie qu'on m'a pris. Lui, il dit c'est les cellules qui se battent, c'est nos propres cellules. J'ai regardé un peu tout ce qu'il avait raconté sur ce sujet-là. Et il disait, voilà, c'est nos propres cellules qui nous détruisent, etc. Machin. Il avait l'air très combatif dans toutes les émissions. Jusqu'à la fin, on l'a vu au JT, il avait la voix abîmée, etc. Il était combatif en dehors ou
non,
c'était...
Il a toujours été... Un combattant, toujours. Il ne s'avouait jamais vaincu. Jamais. Aucun combat ne pouvait être perdu d'avance. C'était pas dans sa nature, dans sa conception.
Quand il sait qu'il est très malade et qu'il s'en sortira pas, il vous propose de partir avec lui, quelques années plus tard.
Pas qu'il s'en sortira pas. Il croit toujours jusqu'au bout qu'il va s'en sortir. Il y a dix jours avant la fin, il a compris. Mais jusqu'au bout, il a cru qu'il allait s'en sortir. Parce qu'il a essayé des tas de thérapies, des tas de protocoles.
Les protocoles, ça va être un traitement qui n'est pas forcément sur le marché, mais qui est en test. C'est ça qu'on appelle les protocoles.
Voilà, il en a essayé plusieurs. Et jusqu'au bout, il croit qu'il va arriver à s'en sortir. Oui.
Il avait un cancer de quoi ?
Il a eu un cancer de l'estomac et de l'œsophage. Et il l'appelait, c'est mon cancer Crédit Lyonnais.
Il l'appelait mon Crédit Lyonnais, oui. Parce qu'il disait que c'était à cause de cette histoire,
c'est parce que pendant toutes ces années, il a ruminé et il s'est fait escroquer. Et on le faisait passer, lui, pour le voyou. Non, mais même aujourd'hui, moi, ça me rend malade. Malade.
À quel moment il vous demande de partir avec lui ? Comment ça se passe ? J'ai vu que vous lisez ça.
Nous sommes en vacances. C'est la dernière, nos dernières vacances d'été. Et il est déjà très affaibli, très très mal. Et la nuit, il avait des angoisses. Donc je ne le quittais pas. J'étais extrêmement fatiguée. Et l'après-midi, je lui disais, écoute Bernard, repose-toi. Et moi, je voulais m'isoler dans une chambre et essayer pendant une heure ou deux de lire, de me recentrer. Et, bon, le chien me suivait, alors je ne veux pas rester sans le chien. Enfin bon. Et à un moment, je raconte tout ça en détail. Et je viens me coucher à côté de lui. Et je lui dis, alors écoute, voilà, je suis là, mais tu te tais, tu me laisses me reposer. Et là, il me prend la main et il me dit, tu ne veux pas qu'on y aille ? Non, je ne comprends pas. Je lui dis qu'on aille où ? Il ne bougeait plus. Hein. Et il regarde dans l'air et il me dit, bah, on y va tous les deux. Voilà. Et là, je lui dis, bah, non Bernard, je ne peux pas. Je peux pas partir. Je n'ai pas envie. Et puis toi, tu as un nouveau traitement qui t'attend à la rentrée en septembre. Donc on va continuer à se battre. Et voilà, il a eu un moment de...
Normal.
De spleen, oui.
Au bout d'un moment. C'est très fatigant entre les médicaments, la fatigue physique, morale, etc.
La douleur.
Et la douleur.
Il était très, très dur à la douleur. Je peux vous dire qu'il a beaucoup souffert à la fin.
Il était en vie en 2021.
Il est parti en octobre, le 3 octobre.
Le 3 octobre. Avant qu'il parte, en 2021, vous vous faites agresser chez vous. Homejacking, c'est un point commun, on en a parlé tous les deux avant.
Ça, c'était pendant le week-end de Pâques. Il y a vu peut-être un... Comme il était très croyant, il a peut-être une foudre divine, je ne sais pas.
Vous êtes dans votre maison à l'extérieur, à la campagne ?
Nous sommes à la campagne, à Comblaville, dans notre moulin. Oui.
Dans votre moulin, et vous dormez sans vos chiens dans la chambre ?
Exceptionnellement, non, les chiens n'étaient pas dans la chambre parce que j'en avais un qui était malade. Donc, on les avait laissés dans la cuisine, les trois. Et puis, on a été réveillés. Vous savez, quand vous êtes pris dans votre sommeil, molesté, qu'on vous crie dessus, vous ne savez plus où vous êtes. Je crois que c'est aussi un des... Quand on veut briser quelqu'un... vous savez, dans les films, les espions, on les réveille en plein sommeil. Et là, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Donc, vous êtes complètement affaibli. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc, on a été agressé par quatre individus pauvres, pauvres. Il n'y a pas de nom pour décrire ces barbares. On a été battus, traînés. Et on sentait vraiment qu'il y avait cette machine. Les quatre avaient chacun un rôle.
Ah, c'était organisé ?
C'était très organisé. On est toujours resté dans le noir avec des lampes électriques qui nous aveuglaient. Ils étaient masqués. Et Bernard a fait preuve d'un courage incroyable, encore une fois. Parce qu'à un moment, bien sûr, lui, il a été tout de suite ligoté. Et moi, on m'a traîné de pièce en pièce.
Pourquoi ?
Parce qu'il voulait savoir où était le coffre. Ils ont demandé les bijoux, l'argent, le coffre. Voilà, c'est ce qui revient en boucle. Et... quand ils m'ont ramené dans la chambre, ils avaient mis Bernard debout, ils étaient trois autour de lui. Et là, j'ai dit, mais laissez-le, vous voyez bien qu'il est malade. Je venais de leur donner tout ce que j'avais. Et là, Bernard leur dit, mais comment vous pouvez me faire ça à moi qui vous ai tout le temps défendu ?
Pourquoi ? Dans quel sens ?
Parce qu'ils s'étaient investis pour les banlieues.
Parce que c'était des gens de banlieue ?
Oui, c'était des gens de banlieue. Ouais. C'était des gens des cités, ça s'entendait à leur langage. Et à ce moment-là, il y en a un qui lui dit « c'est plus ça » ou « j'en sais rien ». Et Bernard de rage lui a craché à la figure. « Ah, mon Dieu !» Je me suis dit « ça y est, là, on est mort. » Parce qu'en fait, quand ça vous arrive, vous ne savez pas l'issue.
Ben non,
vous vous
demandez... parce qu'à la fin, ils ne vont pas
vous... Ah, mais voilà, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et là, j'ai senti mon sang qui se retirait. Et il a juste pris un coup de poing. Il avait une marque ici, avec tous les produits qu'il avait. Il a gardé cette marque bleue pendant des mois à la mâchoire. Et puis ça s'est arrêté là.
Ils sont partis au bout de combien de temps ?
Je vais vous dire, le temps vous paraît très long. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés. Je dirais peut-être un quart d'heure. Je ne sais pas. Mais vous n'avez qu'une envie, c'est que ensuite ils m'ont ramené dans une autre pièce, ils m'ont attaché. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient avec lui. Et au bout d'un moment, je n'ai plus entendu du bruit et mes liens des pieds se sont désolidarisés, parce que j'étais attachée des mains et des pieds.
Ah oui.
et, Et là, je me suis avancée tout doucement. Et comme je ne savais pas si c'était encore dans la chambre, de l'autre côté de l'escalier, je suis vite descendue avertir les gardiens et appeler la police.
Il y avait des gardiens ?
Oui, dans une maison, une petite maison en face.
Ils n'ont rien entendu ?
Elle a entendu du bruit. Elle a surtout entendu les chiens qui n'arrêtaient pas d'aboyer. Donc elle est venue voir. Elle a regardé dans la cuisine. Elle a vu que les portes étaient verrouillées. Elle n'a pas eu l'idée de... Mais comme on était dans le noir, c'était difficile de...
Et finalement, ils étaient partis.
Ils étaient partis. Et là, j'ai demandé au mari de la gardienne, je lui dis vite, 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 mon mari est là-haut, il faut monter à plusieurs. Et elle appelait la police. Et à ce moment-là, Bernard a commencé à descendre les escaliers. Et j'étais tellement émotionnée. Enfin, on sait pas ce qui se passe. Et lui m'a dit tout de suite, allez bébé, t'en fais pas, c'est fini. On n'en parle plus. Et moi, il fallait que je
tout
parle.
Tout de suite ?
Moi, il fallait que je parle. Et lui n'a plus jamais voulu en parler.
Ah bon ?
Non. C'était un sujet tabou, il ne voulait pas en parler.
Il cherchait quoi, les cambrioleurs ? Il cherchait des bijoux, un coffre, des dossiers ?
Non, des bijoux, de l'argent et le coffre. Voilà, ça revenait en boucle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Et le coffre, vous l'avez ouvert ?
Mais je n'avais pas de coffre, donc ça pouvait durer longtemps.
Ils étaient sûrs qu'il y avait un coffre ?
Mais ils m'entraînaient partout, parce qu'ils pensaient en effet que j'avais un coffre. Il n'y avait pas de coffre. C'était pas notre maison principale. C'était une maison où on allait le week-end. Donc ils ont pris les montres, ma bague, le peu d'argent.
Vous vous en êtes remis rapidement ou ça a mis des mois ?
Ah non, j'ai fait des séances avec une psy. Il fallait que j'évacue. J'ai été aussi faire le MDR. Et,
une technique pour oublier ?
Oui. Pour effacer les images, parce que toute la nuit, ça revient en boucle. Et vous savez, j'ai pensé, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu le même genre d'agression, qui m'ont écrit. Et j'ai pensé, et nous, dans notre malheur, on a quand même de la chance. Parce que je n'ai pas redormi dans le lieu où avait eu lieu l'agression. Les policiers sont venus, ils ont pris notre déposition, les enfants, toute la famille est arrivée. Le soir, on nous a ramenés rue des Saints-Pères. Et moi, rue des Saints-Pères, dans ma grande maison, au mur épais et en plein Paris, je me sentais en sécurité. Mais je pensais à tous ces pauvres gens qui avaient été agressés, qui doivent redormir sur le lieu de l'agression, mais c'est épouvantable. Moi, je n'ai plus jamais pu dormir au moulin. Plus jamais. Je venais le matin avec mes chiens, je venais voir mes animaux, mais je rentrais le soir à Paris. Donc, je pense qu'il y a un vrai traumatisme.
Ça va se passer pendant des mois. Petit à petit, vous allez aller un petit peu mieux psychologiquement. Oui. Ça va revenir, vous allez reprendre le pas. Vous le disiez tout à l'heure, le 3 octobre, Bernard décède. Vous dormiez à côté de lui à ce moment-là et vous êtes endormi parce que c'est la nuit. Il ne voulait pas qu'il y ait d'infirmière dans la chambre, sauf ce soir-là où vous disiez le médecin avait peut-être senti qu'il allait avoir besoin.
Oui, mais j'étais toujours seule avec lui. Mais ce jour-là, le professeur Spano qui le suivait m'avait dit, enfin, avait prévenu que bon, il allait partir éminemment. Et moi, je suis allée me coucher, mais il était quoi, 1h, 2h du matin. Et il m'a dit, je te laisse quelqu'un à côté. J'ai dit, mais j'ai pas besoin. Non, non, je préfère. En fait, elle était là pour, je pense, pallier au prémisme du...
Oui, c'est ça.
Voilà.
Il y a une partie de vous qui est soulagée quand il part, s'il souffrait. Vous disiez qu'il était dur au mal, mais qu'il
souffrait
fort.
Il souffrait le martyr, oui. Parce que ça avait atteint les os. Il avait des cellules circulantes qui s'étaient dans les poumons, mais surtout les os. Il avait, quand nous étions dans le sud, nous avions été faire 2-3 séances à l'hôpital Grasse de Monaco avec le docteur Brunner, qui lui faisait de la cimentothérapie. C'est-à-dire que les cellules étaient, pour éviter qu'elles se propagent dans les os, il lui injectait comme du ciment. Et là, il souffrait terriblement.
Vous allez découvrir que vous allez, après, vous avez, j'entendais dans plusieurs interviews, 644 millions, alors ça change en fonction des interviews, parce que vous avez des dettes aujourd'hui.
Oui.
Enfin, vous héritez des dettes, entre guillemets, de votre mari.
Oui. Non, je n'hérite pas de ces dettes, parce que ces dettes, elles ont été réglées.
Enfin, ce n'est pas des dettes, les intérêts des dettes.
Les intérêts, voilà, qui continuent de courir chaque jour.
Ce qui sont, elles sont énormes aussi.
Même c'est une somme inextinguible. Enfin, c'est tellement aberrant que je ne compte même plus.
Ça veut dire que si vous faites rentrer un euro sur votre compte, il vous ponctionne tout de suite ?
Ah non, quand même. On me laisse de quoi vivre. J'ai la moitié de la retraite de député de mon mari. Ben autrement, on est obligé quand même de vous laisser vivre un peu.
Ils viennent...
Mais ce qui veut dire que jusqu'à la fin de mes jours, je devrais de l'argent à l'État alors que je n'ai pas les devoirs. Puisque, je le répète, ce sont des intérêts
alors qu'il a été
l'on
ministre,
fait courir comme ça.
C'est assez particulier de se dire qu'il a été ministre, qu'il a créé beaucoup d'emplois, qu'il a fait vivre beaucoup de gens en France, qu'il a fait bosser les chantiers navals, etc. Et qu'aujourd'hui...
Qu'il avait créé des écoles contre le chômage des jeunes, ça personne n'en parle. Il y avait 5-6 écoles dans toute la France, parce que ça lui tenait à cœur. Comme il venait de la banlieue... C'est pour ça qu'il était très investi. Il avait créé ses écoles avec sa directrice, la directrice du groupe, Noël Bellone. Et tous les jeunes qui sont passés dans cette école, tous ont trouvé du travail. Et tous sont revenus, ont été réinsérés dans la vie sociale et professionnelle.
Pour terminer, comment ça se passe quand il part ? Vous dites à un moment donné, ils viennent saisir tous nos biens. Vous dites qu'ils réfléchissent même à prendre le panier du chien. C'est-à-dire que vraiment, ils prennent tout ce que vous avez. Et c'est là où vous vous retrouvez à la rue, entre guillemets, vous n'avez pas d'endroit où dormir. Et c'est là où Jean-Louis Borloo, vous en parliez rapidement tout à l'heure, mais vous propose de venir. C'est un ami de Bernard ?
Un ami de longue date, puisque quand Bernard a commencé à reprendre ses entreprises, Jean-Louis, qui était avocat, ils bossaient ensemble.
Il vous propose de venir chez lui. Vous allez vivre combien de temps ?
Non, pas chez lui. Il propose de me louer un appartement.
Je croyais qu'il y avait une chambre d'amis. Okay.
Non. Il me prend un appartement où je suis encore, d'ailleurs, que je vais bientôt quitter. Mais oui, il a la gentillesse de m'héberger.
C'est
sympa. Que je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est.
Ça, vous l'aviez pas prévu avant ? Même Bernard ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient aller jusque-là ?
Je pense que Bernard... Oui. Il avait trop confiance dans la justice de son pays, parce que jusqu'au bout, vous savez qu'il avait un procès. Hein. Et je crois que jusqu'au bout, il s'est dit, c'est pas possible qu'on ne reconnaisse pas la vérité. Et je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée dans cette situation. À un moment... Il parle dans une émission, il dit « il faut que je mette ma femme à l'abri », mais c'est trop tard. La machine judiciaire est déjà en route. C'est trop tard.
Vous l'en avez voulu de ça, à un moment donné ?
Oui.
Vous le dites dans le livre ?
Oui, je m'en ai voulu.
C'est passé depuis, mais...
Ben, c'est passé, oui. C'est passé parce que, voilà, je me suis expliqué plein de choses. Le fait d'écrire le livre, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que... C'était pas une situation facile à gérer.
Vous parliez d'un signe, pour terminer. Vous
aviez
avec des champignons.
Des signes, j'ai eu plein de signes.
Non, mais vous en parlez d'un, et après vous dites plus d'autres. Alors moi, je vous pose la question sur les autres, mais Je ne croyais pas aux signes jusqu'au moment où j'ai perdu mon meilleur ami en 2020, 12 avril, pareil. Et j'ai eu des signaux. Mmh. Et des signes. Alors que je n'y croyais pas. J'étais le premier à me dire non, mais c'est bon.
Mais c'est vrai. C'est vrai.
Et j'ai eu des trucs assez flagrants et je me suis retrouvé dans votre histoire. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver.
Des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est un peu paranormal. Je ne peux pas l'expliquer.
Vous pouvez donner un exemple.
Et je ne cherche plus à expliquer. Mais je vous assure que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec Sophie. Et Laurent a eu aussi une action qui n'est pas explicable.
Comme quoi, par exemple ?
Moi, j'étais avec Sophie à Saint-Sébastien, avec son futur mari. Et on est dans un bar à tapas, un petit bar. Et derrière, il y a quelqu'un qui prépare les plats, derrière nous, pareil. Et Sophie est assise contre un mur. Elle a une pyramide de cèpes posées les uns sur les autres. Son futur mari Baptiste a des tomates et moi je dois avoir des poivrons, peu importe, voilà. Et on est là et on commence à déguster nos tapas et puis passe une assiette avec des champignons et Bernard était fou de champignons, il était très bon cuisinier, hein. Il faisait la cuisine chaque week-end, ça le détendait et quand c'était la période des champignons, deux, trois fois par semaine, il faisait des champignons. Je dis, je ne peux plus des champignons. Et là, en joke, je dis à Sophie, écoute, il y a des cèpes, allez, on va lui faire plaisir là-haut, on commande une assiette de cèpes. Les cèpes arrivent, on met l'assiette devant nous trois, on commence à manger les cèpes, et là, je vous jure que de la pile devant Sophie, il y a un cep qui est sorti, qui est allé la taper. Mais on est trois.
Un cèpe cuit, chaud ?
Non ! Là, un cèpe posé comme ça, les uns sur les autres, cru, en décoration. C'est... Comment vous... Évidemment, sur le moment, je me dis, attends, j'ai halluciné ou quoi ? Je l'ai vu sortir comme ça. Sophie le prend sur elle, Baptiste, on est trois. Je veux bien qu'on avait bu un verre de sangria avant, mais enfin bon, on était... c'est invraisemblable.
C'est invraisemblable.
Et après, on cherche à s'expliquer. Je me dis, alors voyons, un champignon...
Il était sous pression.
C'est spongieux, c'est léger. Est-ce que... Ça ne peut pas s'expliquer. Et je pense que Bernard avait une telle personnalité et il n'avait pas envie de partir que pendant un moment... Son âme, quelque chose. Il y a une énergie qui est restée. Je suis sûre. Je suis sûre de ça. Et je n'étais pas du tout réceptive à ce genre de manifestation quand on me le racontait.
Oui, quand vous entendiez ça à l'époque, vous disiez bon...
Okay. Non, mais c'est invraisemblable.
Vous avez quoi d'autre comme signaux ?
Quand j'ai quitté la rue des Saints-Pères, j'avais un porte-clés depuis des années, comme ça, un cœur ciselé en argent. J'arrive dans mon nouvel appartement, je sors du sac, cassé en deux. Des histoires de photos aussi, des choses inexplicables.
Vous êtes fière d'avoir été la femme de Bernard Tapie ?
Très fière. Très fière, c'était un homme exceptionnel. Et j'ai eu une vie passionnante, avec des moments très durs, mais bon, ça valait la peine d'être vécu.
Vous avez passé plein de messages, et il y en a d'autres dans le livre que vous avez sorti. Je vous remets le lien, si vous voulez aller voir et acheter le livre. Le lien en cliquable dessous, la vidéo, comme ça, c'est très simple. Bernard, la fureur de vivre, c'est aux éditions de l'Observatoire. On vous a montré quelques photos qui ont apparu pendant l'émission de vous avez mis dans le livre de Bernard. Il y en a plein d'autres. Voilà, il y a plein de pages avec des photos au centre de toute votre vie. En gros, vous racontez tout ça. On n'a évidemment pas pu raconter l'entièreté du livre. Déjà, on a fait une belle émission bien longue. Je vous remercie. J'ai pris
Merci
le temps.
À vous.
Ça s'est bien passé. Je sais que les interviews, c'est pas toujours facile et agréable.
Non, mais c'est bien.
On a eu le temps de parler.
Bien sûr.
De se raconter des choses. Donc, merci à vous d'être venus. Je vous mets tous les liens et bonne continuation pour la suite. Vous allez pouvoir toucher l'argent du livre ou comment ça se passe avec les dettes?
Non, tout ce qui est présent me sera laissé, a priori.
Donc ça aide vraiment, pour le coup.
Enfin, vous savez, les écrivains ne sont pas très, très riches.
Hein. Ah oui, bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Continuez de vous abonner, les amis, sur Légende. On est de plus en plus nombreux. Chaque mercredi, vendredi, dimanche, on fait une interview qu'on vous met en ligne, un documentaire. Merci de nous retrouver aussi sur Instagram de plus en plus. C'est un des troisièmes podcasts de France aujourd'hui, grâce à vous. Continuez de venir nous écouter si vous voulez transmettre aussi sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. On est dispo. Mettez 5 étoiles sur les applis. Ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Jusqu'à moi, juste ici, sur ce boulevard que vous connaissez très bien, le boulevard Pereire. Merci beaucoup et à très bientôt tout au long.
Légende Podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.